Mesdames, messieurs, bonjour. Bon, vous avez de la chance, j'avais prévu de faire des travaux pratiques aujourd'hui pour vérifier simplement si avec la séance de la semaine dernière, vous étiez toutes et tous capables de tailler ce matin. Mais en raison du temps, changer de programme. S'affiche à l'écran parce que c'est le dernier cours de l'année. Le titre de celui de l'année prochaine, c'est tout un programme, hein. Tel que vous me croyez me connaître un peu, ça va sûrement être un programme. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la transition entre ce que je vous ai dit et ce que je vous dirai l'année prochaine. Vous aurez remarqué, moi qui suis toujours perdu dans les dates, que tout ceci l'an prochain devrait commencer, si je ne me suis pas trompé, mais l'administration l'ayant accepté, ça doit être bon, le 24 mars, c'est-à-dire un jeudi, à la même heure et au même endroit. Donc, voilà pour ça. Alors, maintenant. Je vais essayer pendant une heure ou à peu près de vous brosser un tableau à grands traits de ce que nous avons fait ensemble. La deuxième partie, c'est-à-dire celle qui s'appelle séminaire, je me suis invité aujourd'hui. C'est pas beaucoup, hein, je l'ai fait qu'une fois. Et je me suis invité parce que, vous l'aurez remarqué, vous m'avez pas posé beaucoup de questions, c'est normal, puisque j'avais un invité dont vous vouliez, et je le comprends, complètement profiter, mais je ne voudrais pas, surtout pas, que l'on se quitte et que vous partiez avec cette idée que je me serais dérobé à vos questions. Donc, j'ai pensé que le dernier séminaire, j'allais me soumettre à toutes vos questions. Alors, naturellement, hein, sûrement que pour beaucoup d'entre elles, je ne saurais pas vous répondre, mais je vous le dirai. Je vous dirai, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà notre programme pour ce matin. Cet après-midi, naturellement, mon collègue Chris Bird fera un exposé sur les anthropoïdes primitifs du Myanmar. Le Myanmar, on aura d'ailleurs, je crois cet après-midi, l'ambassadeur du Myanmar en France. Le Myanmar est l'ex-Birmanie. Et c'est un pays particulièrement riche en sédiments qui contiennent des fossiles de primates et notamment des fossiles d'anthropoïdes. Pour celles et ceux qui viendront, vous verrez, c'est assez extraordinaire. Bien. Alors, vous êtes, je suis, nous sommes tous ensemble des primates. Et dans ces primates, vous le savez, on est là classé chez les singes de l'Ancien Monde. Parce qu'il existe des singes du Nouveau Monde. Et sans anticiper sur ce que je vous dirai l'année prochaine, mais par exemple, vous imaginez les deux grands groupes de singes, les voilà, platyriniens et catarriniens. Eh bien, les platyriniens d'Amérique du Sud, eh bien, on ne connaît pas leur origine, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, vous voyez combien est grande notre ignorance. Alors, peut-être que quand on se reverra l'année prochaine, j'espère bien, j'aurai plus de lumière sur ce point. En effet, entre maintenant et ce moment-là, j'aurais été sur le continent antarctique, c'est la porte à côté, et vous savez bien que quand on fait des missions lointaines, il faut les faire quand on est jeune, c'est pour ça que j'en profite. Et j'espère, sur le continent antarctique, trouver une réponse à cette question. D'où viennent les anthropoïdes d'Amérique du Sud? Pour le moment, on n'a pas de réponse acceptable. Je dirais convenable. Mais un primate, au fait, c'est quoi? Voilà des petits primates, Loris galago, que l'on trouve à la fois en Afrique, dans le sous-continent indien, c'est-à-dire Afrique, Asie. Des lémuriens, que l'on trouve essentiellement à Madagascar, au moins dans la faune actuelle. Des tarsiers, tout petits tarsiers, adorables, en voie d'extinction, que l'on ne trouve qu'en Indo-Malaisie, que là, plus que là. Des singes, j'en parlais, que l'on connaît en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Des grands singes. Alors, la différence là, bon, mais vous le savez maintenant, pour les anglophones, singe, c'est monkey, grand singe, c'est ape. Ils ont deux mots. Nous, on n'en a qu'un. Pour une fois, le français est une langue moins riche. Toutes les règles ont des exceptions. C'est pour ça qu'on fait des règles. Donc, grand singe et humain. On connaît maintenant, grâce à la biologie moléculaire, parfaitement les rapports de parenté entre tous ces groupes. Les voilà. vous voyez que on a un groupe là qui regroupe les Lémuriens, les Loris, les Galagos, qu'on appelle les Strepsirini, sont les singes, pardon, sont les primates, pas des singes surtout pas, sont des primates qui, comme votre chien ou votre chat, ont une truffe sur le museau. Bon, on a tous remarqué qu'on était dépourvus de cela. Hein. De l'autre côté, alors ceux-là, on les appelle les Strepsirini, les autres, Aplorini, n'ont pas cette truffe. Strepsirini et Aplorini sont deux groupes frères. Nous sommes dans le groupe des Aplorini. Avec les tarsiers, les singes, les grands singes. On remonte. Nous sommes des anthropoïdes. Et mon collègue de Pittsburgh, Chris Bird, est justement là au Collège de France pour nous parler de l'origine et des premiers anthropoïdes, c'est-à-dire nos ancêtres les plus lointains. Les premiers anthropoïdes, on est à 40 millions d'années. Or, vous avez bien remarqué que notre histoire à nous, les humains, c'est 7, 8 millions d'années. C'est un ordre de grandeur. On ira peut-être jusqu'à 9, mais je ne le crois pas. Quels sont les grands caractères de ces primates ? Vous l'aurez remarqué, on a des ongles, au moins un certain doigt. Bon, chez nous, c'est OK, on a des ongles à tous les doigts. Mais si vous regardez les primates dans leur ensemble, certains d'entre eux n'ont pas des ongles à tous les doigts, mais ils ont des ongles. Si vous cherchez ou si vous regardez les pattes de votre chien, de votre chat, il n'a pas d'ongles. On a une vision frontale. On a un gros orteil opposable. Non, ne soyez pas inquiets. On l'a perdu, nous. Pas le gros orteil, mais la faculté d'être opposable. Par contre, souvenez-vous, et c'est important, très important, en 2009, c'est donc récent, c'était au mois d'octobre, la publication du squelette d'Ardipithecus ramidus par mon collègue Tim White et ses collaborateurs a permis de montrer, un, que Ardipithecus était bien une hominidée, deux, qu'il était bien bipède, trois, qu'il avait un gros orteil opposable. Et que du même coup, cette idée de la savane originelle pour l'homme est passée dans l'histoire de notre histoire. La bipédie est née en zone boisée, pas dans la prairie. C'est l'état actuel de nos connaissances. Il y aura, c'est sûr, encore des évolutions. Je rappelle qu'avoir un gros orteil opposable, c'est être capable de grimper dans les arbres et de faire avec le gros orteil ce que vous faites avec votre pouce à la main. Exactement la même chose, hein ? Avoir un gros orteil qui est orienté comme ceci par rapport au pied. C'est d'ailleurs pour ça, et vous le savez bien, que quand on a un accident sur une main, le doigt à préserver autant que faire se peut, c'est le pouce, c'est le pouce. Si vous enlevez votre pouce, votre main devient un très mauvais outil. Le gros orteil opposable, c'est un dispositif anatomique qui vous permet de grimper aux arbres beaucoup plus facilement. Vous savez bien, et vous vous souvenez, j'en suis certain, des difficultés que nous pouvons avoir à grimper dans les arbres. Et quand on regarde des gibbons qui se balancent et qui sautent de branche en branche, on a du mal à s'imaginer en train de faire de même. C'est difficile. Un dispositif anatomique très particulier aux primates, la bulle auditive, c'est-à-dire la région de l'oreille. Cette bulle, normalement, chez par exemple votre chat ou votre chien, elle est plus ou moins sphérique et elle recouvre un os du crâne qu'on appelle le pétreux, mais que vous connaissez mieux sûrement sous le nom de rocher, parce qu'il arrive parfois des accidents où on dit « Ah, il y a eu une fracture du rocher », ce qui est quelque chose de grave. Bien, au niveau de ce rocher, c'est là qu'arrive le nerf auditif, et c'est à partir du rocher que vous avez cette série de trois osselets qui sont en contact avec le tympan. Ainsi, quand je vous parle, je transmets des vibrations qui font vibrer une membrane qui est votre tympan. Les trois osselets transmettent ces vibrations à travers étrier, marteau en clume, c'est transmis au rocher et de là au nerf auditif. Eh bien, chez les primates, la bulle n'est pas constituée par un os à part, c'est le rocher qui fait la bulle. C'est le rocher, c'est-à-dire qu'à proprement parler, il n'y a pas de bulle auditive. C'est un caractère partagé par l'ensemble du groupe. Enfin, chez ces primates, il y a toujours une barre post-orbitaire, c'est-à-dire qu'en arrière de l'orbite, vous avez une barre osseuse qui rejoint l'arcade zygomatique. Voilà, il y en a d'autres, mais voilà quelques caractères dérivés qui sont partagés par tout le groupe, par les primates. Si je vous ai dit qu'il y avait des anthropoïdes très anciens en Birmanie, il y en a très anciens en Thaïlande, il y en a très anciens en Chine. Et c'est clair, maintenant, les plus anciens anthropoïdes connus, c'est-à-dire les plus anciens singes, nos plus lointains ancêtres, ne sont pas africains, comme on l'a toujours pensé jusqu'à maintenant, mais ils sont asiatiques. Pour le moment, les plus anciens anthropoïdes connus sont maintenant asiatiques. Pendant longtemps, on a vécu, c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais étudiant, on a vécu avec l'idée que les anthropoïdes avaient une origine africaine. Non. Non, pour le moment, il y en a des plus anciens en Asie. Alors peut-être qu'un jour, on en retrouvera des plus anciens. Alors, avec mon équipe, on en a déjà trouvé des plus anciens que ceux du Fayoum. Les plus anciens étaient ceux du Fayoum en Égypte. On en a maintenant ailleurs qu'au Fayoum, notamment en Libye, par exemple, à 40 millions d'années. Le Fayoum, c'était 35, 36, 37 millions. On en a des plus vieux, mais il y en a des plus vieux en Asie encore. Il y en a des plus vieux en Asie. Ce qui montre qu'il y a eu très tôt des migrations. J'arrive, on a évoqué ces problèmes de biogéographie, qu'il y a eu très tôt des migrations et des échanges entre l'Asie et l'Afrique. Et c'est un échange de même type qu'on ne connaît pas pour expliquer la présence des anthropoïdes en Amérique du Sud. Vous imaginez, l'histoire retenue à l'heure actuelle, c'est un radeau naturel, oui, un radeau naturel qui serait parti du golfe de Guinée et qui aurait rejoint les côtes brésiliennes. Durée du voyage, au minimum 30 jours. Vous imaginez, quoi, hein ? Bon. Je crois qu'on peut avoir des hypothèses plus crédibles assez facilement. Si on regarde maintenant notre groupe, à nous, les humains, écoutez, je crois que tout, mais vraiment tout ce que l'on connaît à l'heure actuelle, montre que notre berceau est africain. Nous sommes tous des Africains. Tous. Alors, peut-être qu'un jour, on trouvera des choses plus anciennes en Asie, mais vraiment rien, absolument rien, pour le moment, ne permet de conforter cette hypothèse. Nous sommes des Africains apparus en Afrique à au moins 7 millions d'années, on en connaît un à 7, peut-être 8, au grand maximum 9. Personnellement, je crois très fort qu'on va trouver des choses plus anciennes que Toumaï, oui, mais je crois entre 7 et 8 millions d'années. Mais bon, on verra bien. Autre chose. Nous sommes, vous le savez, après l'année Darwin, nous sommes cette année dans l'année de la biodiversité. Vous savez tous cela. Alors, on parle de beaucoup de choses à propos de la biodiversité, cette biodiversité qui est en train de s'effilocher, des espèces qui disparaissent, il y en a qui naissent aussi. On parle, vous l'aurez remarqué, rarement de la nôtre. Parce que forcément, à l'heure actuelle, sur la planète Terre, il n'y a plus qu'une espèce. Une seule. Qui a une diversité, en son sein, très grande. Génétiquement, vous vous souvenez de cette exposition qui a fait le tour de la France et de bien d'autres pays, tous parents, tous différents. Nous avons une grande diversité, mais aussi une grande unité. une seule espèce, bien que on va peut-être encore avoir des surprises. Maintenant, ça, on vient de l'apprendre cette année, c'est tout récent. Maintenant que certains de mes collègues ont cru montrer qu'il y avait une hybridation entre les Néandertaliens et nous. J'ai été prudent. J'ai dit, on cru montrer. On verra bien. Ceci étant, vous, moi, nous, avec cette publication faite dans Science, il y a très peu de temps, sur le paléo-ADN nucléaire des Néandertaliens, ce papier, cet article sera sûrement une pierre angulaire dans notre connaissance. On va pouvoir, dans les années qui viennent, étudier certaines populations fossiles comme on étudie les populations actuelles. On va pouvoir faire de la génétique des populations sur certains fossiles, notamment les Néandertaliens. Alors, quand je dis certains fossiles, pour le moment, la technologie à notre disposition a fait des progrès immenses. Mais l'ADN se dégrade assez vite et la technologie à notre disposition à l'heure actuelle permet de reculer à des dates qui sont, on est dans un ordre de grandeur de 100 000 ans. Mais c'est énorme déjà, c'est énorme. Le travail de terrain et les recherches sur le terrain aidant, et je vous ai dit, redit, et vous avez sûrement pensé que ça devenait une manie de ma part, mais non. D'ailleurs, regardez, je continue à aller sur le terrain. Parce que c'est là, et uniquement là, que l'on trouvera de nouveaux fossiles et donc de nouvelles idées. Pas de terrain, pas de fossiles. Pas de fossiles, rien de nouveau. Que ce soit à l'est ou à l'ouest. Rien de nouveau si on ne va pas sur le terrain. Avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, eh bien, regardez sur ce tableau. Voilà les formes qui ont été décrites. Genres et espèces différentes. Faites un trait horizontal à un moment donné. Faites un trait horizontal entre plusieurs traits, entre 2 et 4 millions d'années. Eh bien, vous voyez bien que à certains moments, il y avait plusieurs espèces d'hominidés qui coexistaient. Alors, ce n'est pas... On ne vient pas de faire, en disant ça, une découverte importante. Si vous regardez ce que l'on sait sur n'importe quel groupe de mammifères, n'importe quel groupe, vous prenez des souris, vous prenez des éléphants, vous prenez des hippopotames, vous prenez des carnivores, n'importe quel groupe, tous les groupes évoluent de la même manière. Un jour, le groupe naît. C'est un peu comme un arbre, mais l'arbre, c'est une image. Et puis, sur votre arbre, il apparaît des branches. Eh bien, dans votre groupe, il y a de nouvelles espèces qui apparaissent, de nouveaux sous-groupes, et puis ça devient plus ou moins buissonnant. Et puis, un jour, votre arbre, vous y êtes attaché, vous l'avez bien soigné, mais, il a vieilli. Et il finit par disparaître. Alors, selon l'essence que vous avez choisie, ça peut durer beaucoup plus longtemps que vous ou que nous. Beaucoup plus. Mais cet arbre, il finit par disparaître. Il en est ainsi des groupes. Regardez là, c'est exactement cette représentation, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Le groupe est né 7, 8 millions d'années, et puis ce groupe, il a fait des branches, il s'est diversifié, vous voyez bien qu'il arrive un moment où il y a un certain nombre d'espèces. Et puis, très récemment dans notre histoire, parce que d'un côté, vous mettez 8 millions d'années, et il y a 28 000 ans, on était encore trois espèces. Les trois espèces étant l'homme de Flores, l'homme de Néandertal et nous. 28 000 ans, 27, les Néandertaliens s'arrête. L'homme de Flores semble s'arrêter vers 18 000 ans. Vous imaginez que sur une histoire de peut-être 8 millions d'années, ça fait juste un peu plus de 15 000 ans qu'on n'est plus que tout seul. Ce n'est pas inintéressant de mettre les choses en perspective. Et que donc, quand on parle de biodiversité, eh bien, vous voyez que, au moins à ce point de vue, tant qu'à notre diversité taxinomique, eh bien, notre biodiversité elle a diminué. Elle a diminué il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je veux dire que, ou plutôt le redire, qu'une telle histoire n'a rien de très particulier. Alors je sais bien que pour plein de raisons que je ne veux pas évoquer là, parler ainsi peut choquer. Non, si on regarde, il ne faut pas tout mélanger, si on regarde en tant que scientifique, en tant que biologiste ou paléobiologiste, l'histoire de notre groupe, cette histoire, elle est comparable à n'importe quel autre groupe. Alors attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je sens bien, alors que vous ne dites pourtant rien, j'entends des voix qui s'élèvent et qui disent « il exagère ». Bien sûr que nous, on est un groupe singulier, avec ce cerveau qui nous a permis de faire tellement de choses. Et ce n'est pas fini. et c'est pas fini. Bon. Mais ça ne change rien, absolument rien, à ces phénomènes évolutifs. Et dans ces phénomènes évolutifs, un des éléments moteurs reste le climat. Climat et changement climatique. J'insiste sur ce point, on n'a pas attendu la Terre, la planète Terre n'a pas attendu l'an 2000, le début du troisième millénaire, pour faire des changements climatiques. Il y en a eu tout au long de l'histoire de la Terre. Alors, surtout de grâce, je n'ai pas dit que le changement climatique que nous vivons est sans importance. Je n'ai pas évoqué ça. Je dis simplement que le changement climatique, c'est habituel. S'il n'y avait pas de changement climatique, là, il faut s'interroger. Mais ça n'existe pas pendant très longtemps. Je vous ai montré plein de fois ce schéma. Et puisqu'on parle de biodiversité, c'est intéressant. Les chimpanzés sont représentés à l'heure actuelle par deux espèces. Donc leur biodiversité taxinomique est plus grande que la nôtre. Ils sont 100 000, à peu près, moins même. Nous, avec une seule espèce, on est plus de 6 milliards, bientôt 7. Ce que je vous ai dit avant est quelque part résumé ici. Nous savons maintenant que les humains, nous sommes le groupe frère des chimpanzés. Voilà une partie de ces branches dont je vous ai parlé. La plus ancienne, pour le moment, est à 7 millions d'années. Cet dernier ancêtre commun aux chimpanzés et à nous s'est ouvert. Allez sur le terrain et vous allez peut-être le trouver. C'est promis, vous pourrez faire un papier dans Nature ou Science sans aucun problème et vous ferez la couverture. Il faut le trouver. C'est pas fait. Une seule certitude, si nous restons tous là, dans cet amphithéâtre, nous ne le trouverons jamais. Donc, une seule certitude, il faut aller sur le terrain. Pardon d'insister. Mais... Alors, il y a sûrement quelque chose qui n'est pas... la pensée de la communauté. Mais il me plaît souvent, vous l'aurez remarqué, d'essayer de m'extraire de la pensée commune. Cet ancêtre commun, cette population ancestrale, c'est clair. Cette dichotomie chimpanzé-humain, elle s'est faite en Afrique. c'est clair. Mais la population ancestrale, c'est la population ancestrale aux grands singes africains, gorilles, chimpanzés et à nous. C'est-à-dire que cette population ancestrale, il faut la chercher autour de 10 millions d'années. Et là se pose une question. Ça se passe en Afrique, c'est sûr, mais peut-être bien que cette population ancestrale-là, elle n'est pas africaine, mais qu'elle est asiatique. Soyons parfaitement clairs. Quand je dis cela, je n'ai pas, pour le moment, les moyens de vous le démontrer. C'est une hypothèse de travail. Mais cette hypothèse n'est pas très bien vue dans les milieux que j'ai l'habitude de fréquenter. Pourtant, à mon avis, c'est une hypothèse qui a autant de valeur que les autres. Et il n'y a pas plus, pas moins d'arguments pour la réfuter. Et je ne serais pas autrement surpris que dans un avenir proche, on puisse arriver à montrer que parmi les hominoïdes asiatiques, certains d'entre eux, une population a migré en Afrique et c'est elle qui a donné naissance aux grands singes africains et à nous. Ça me paraît quelque chose de raisonnable. Quand on regarde pour ce que l'on connaît à l'heure actuelle, dans cette tranche de temps, on est frappé par la grande, cette fois, biodiversité des hominoïdes asiatiques et la pauvreté, à la même époque, des hominoïdes africains. Alors, la réponse est que certains collègues disent oui, c'est vrai, mais simplement, il y a encore beaucoup de terrain à faire en Afrique et on n'a pas trouvé possible, tout à fait possible. Mais si l'on regarde ce que l'on connaît, on peut arriver à une autre conclusion. À suivre. Un problème important, je vous parle beaucoup du terrain, mais il ne faut pas oublier toutes les nouvelles technologies. J'ai abordé ces nouvelles technologies juste l'espace d'un instant en vous parlant du séquençage et du paléo-ADN. Regardez ce qu'on arrive à faire. On va faire de la génétique des populations chez les Néandertaliens. C'est quand même extraordinaire. Et sur de l'ADN, pas mitochondrial cette fois, mais nucléaire. De la même manière, on peut utiliser les tomographies ou microtomographies scanners, à la fois pour reconstruire les fossiles et pour voir les détails anatomiques internes qui nous étaient complètement cachés. Vous avez sur cette image le crâne de Toumaï qui, vous le voyez à gauche, était très déformé. Eh bien, on lui a redonné sa forme d'origine. On l'a déconstruit morceau par morceau, virtuellement, tout ça est numérisé, et reconstruit. De la même manière, On est en train, en ce moment, et c'est promis, j'inviterai l'année prochaine, ici, pour un séminaire, celui qui est en train de réaliser ça, c'est fait, il aura soutenu sa thèse, on est en train de reconstruire non pas le cerveau, mais l'empreinte laissée par le cerveau dans la cavité endocrânienne de Toumaï. Ça, c'est toute la technologie à notre disposition. Alors, faites-moi la grâce de penser que je ne suis pas un anti-technologiste, mais il y a pour moi, et c'est important, cette dualité entre le terrain et, bien sûr, les technologies les plus modernes. La plupart de ces technologies étant d'ailleurs des technologies qui n'ont pas été créées, vous vous en doutez bien, pour nous, mais qui ont été créées pour la médecine. Beaucoup des technologies que nous utilisons sont des technologies utilisées par les médecins. Alors, sauf que, quand vous avez un crâne comme Toumaï, qui a 15 cm d'épaisseur, qui est complètement fossilisé et qui n'est plus que de la silice densité 2,8. Si vous essayez de faire une coupe transversale dans ce crâne, avec le scanner que vous avez peut-être connu dans votre CHU préféré ou clinique, eh bien, non, vous ne pouvez pas. Parce que quand on vous fait un scanner, on vous passe à 60 kV ou quelque chose comme ça, et le scanner, il peut monter à un peu plus de 100. Toumaï, pour le couper, pour chaque microtomographie, on a fait des expositions de 15 minutes à 400 kV. Si on m'avait fait cela, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Je ne serais plus là. Donc, au départ, on a utilisé des scanners industriels. Et maintenant, on a des choses qui sont encore mieux. On utilise la lumière synchrotron. Alors, avec mon équipe, on a l'habitude de travailler à Grenoble, au synchrotron européen de Grenoble. Mais plus près, vous avez Soleil, qui est en train de développer des technologies du même ordre, quoi, hein. Et tout ça ira grandissant. Alors, c'est absolument extraordinaire pour les paléontologues, parce que avec ces techniques modernes, pour la première fois, vous avez accès à l'anatomie interne sans détruire le fossile, sans détruire le fossile. Avant, vous ne pouviez pas le faire. Quand vous imaginez que, par exemple, les plus anciens vertébrés fossiles que l'on connaisse, qui sont alors à plus de 500 millions d'années, les premiers étudiés l'ont été par l'école suédoise, par des gens tels que Stensjö, Horvig, Jarvik, etc., tout à fait au début, je me souviens, quand j'étais étudiant, ce qui n'est pas si vieux que ça, somme toute, on vous expliquait qu'il prenait le fossile, il donnait un coup de marteau dessus pour regarder la coupe et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, ce n'était pas vraiment une coupe, il regardait la cassure, quoi. Vous imaginez que maintenant, on peut reconstruire complètement le fossile sans rien casser et voir toute l'anatomie interne. C'est extraordinaire. Imaginez, regardez en bas et à droite, vous avez déjà vu ces images, voilà des images c'est une tomographie scanner en bas et à droite. Regardez la précision, regardez la conservation, c'est 7 millions d'années. Au passage, remarquez la longueur de la racine de cette canine et regardez la hauteur de la couronne. Eh bien, cette canine, elle a une racine très peu dérivée, très primitive, très longue, et la couronne est très humaine déjà, très réduite. Ça veut dire au passage que cette canine, bien que sa couronne soit très réduite, elle n'était pas là pour faire de la figuration. Hein. Implantée comme ça, elle servait. D'ailleurs, elle est largement usée par sa surface occlusale. Avec ces scanners, vous pouvez les empiler les uns sur les autres. Regardez l'image du milieu ici. C'est un bloc diagramme, en quelque sorte, où on a reconstruit à certains niveaux la mâchoire et on s'est arrêté là. Eh bien, pour voir les coupes des racines, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez l'image de gauche, ici, qui est l'original. Vous voyez, il est entier, on ne lui a rien fait, on ne l'a pas abîmé. Les propriétaires du matériel, je parle du patrimoine, c'est-à-dire... Le Tchad, et notamment le président du Tchad, je me souviens, la première fois que je lui ai montré les images, il était inquiet pour le matériel. Alors, je l'ai rassuré en lui disant que non, non, il n'y avait pas de, problème. Alors après, avec ces techniques, vous pouvez faire des images miroirs et compléter tout ce que vous voulez. Tout cela pour vous dire... que si je vous répète inlassablement que nous n'avons pas besoin de paléo-anthropologues de salon, qu'il faut aller sur le terrain, avec mon équipe, nous utilisons abondamment toute la technologie et les technologies les plus modernes et les plus sophistiquées. Mais il y a la dualité. Avec mon équipe, et ça, j'en ai toujours été très fier, et ça me paraît extrêmement important. Nous avons toujours, étudié que le matériel que nous avons nous-mêmes mis au jour sur le terrain. Et c'est ainsi qu'on peut progresser. C'est important. C'est exactement ce qui est pratiqué par l'équipe de Tim White, Université de Californie à Berkeley. Regardez, c'est extraordinaire, ces reconstitutions. C'est un travail énorme. Cette espèce a été publiée la première fois dans Nature en 1994. Elle a été décrite en 2009. Je vous promets, j'ai beaucoup de collaboration avec cette équipe. J'ai lu dans la presse déchaînée des tas de choses qui n'étaient pas vraies. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup de travail pour arriver à refaire tout cela. Mais avec cette patience, ce travail, la technologie aidant, eh bien, regardez, ils ont pu montrer, entre autres, regardez ce gros orteil. Regardez comment il est là, eh bien, il est opposable. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que ce gros orteil, vous regarderez ce soir en rentrant à la maison, Il s'articule sur un os du tarse qu'on appelle l'anto-cunéiforme. On a trois cunéiformes. Ecto, celui qui est à l'extérieur, méso, celui qui est au milieu, et anto, celui qui est à l'intérieur. Et les trois cunéiformes sont du côté interne du pied. Eh bien, quand vous avez un gros orteil qui n'est pas opposable, eh bien, la surface articulaire pour le gros orteil, elle est située sur la face antérieure, sur la face proximale du cunéiforme. Quand vous avez un gros orteil qui peut se mettre comme ça, eh bien, cette surface articulaire, elle est sur la face antérieure, mais elle déborde très largement sur la face externe. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. L'anatomie, c'est quelque chose, c'est comme la mécanique. C'est de la mécanique, c'est particulièrement précis. Particulièrement précis. Alors, après, bien sûr, on peut faire des tas de choses qui vont jusqu'à reconstruire en cherchant les insertions musculaires et puis avoir une certaine image. Alors, bien sûr, quand on passe à ce type de reconstruction, il y a des parties qui sont imaginées. Mais globalement, on est sûrement assez près de la réalité. Cette forme est plus récente, elle est à 4,4 millions. Mais regardez, vous avez déjà des canines réduites. Et puis regardez, vous avez déjà un bassin. En jaune, là, c'est le bassin de Lucie. Alors, ce bassin, il est moins évasé, enveloppant que celui de Lucie. Et surtout, il est plus haut. Regardez, il est beaucoup plus haut que celui de Lucie. C'est-à-dire que ce n'est pas la même bipédie. Mais Lucie n'a probablement pas, ou n'avait probablement pas, on ne connaît pas, un gros orteil opposable. Mais là encore, on en reparlera l'année prochaine, il y a très sûrement des surprises à venir. Sur cette image que vous connaissez bien, je voudrais simplement vous faire remarquer une chose. Quand je vous dis qu'il faut aller sur le terrain et quand je vous dis que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, vous voyez qu'il y a encore des endroits où on peut fouiller. Hein, il y a de la place. Hein. Et en plus, globalement, tous les collègues sont concentrés là, en Afrique orientale, et là, en Afrique du Sud. Donc, vous voyez, vous pouvez être tranquille, hein. Quand on remonte dans le temps, on a forcément des fossiles différents. Cette image des scanners, bon, je vous en ai déjà parlé, cette image, pour vous montrer la canine, voilà une canine humaine, asymétrique, incisiforme, usée par la pointe. Ça, c'est humain, préhumain. Forcément, votre canine est plus dérivée. Heureusement pour vous, celle-là a 3,5 millions d'années. Mais votre canine, notre canine, la mienne, elles sont construites de la même manière, avec une seule dent, comme cela, une seule dent. Vous pouvez dire, ça, ça appartient à la famille humaine. Ce n'est pas un singe. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ça, parce que regardez, tous les points bleus sont les australopithèques. Alors, avec mon équipe, on a planté un drapeau là, quoi. Hein. Mais c'est tout. Je vous ai déjà dit ça, c'est, je vais vous le redire, excusez-moi, c'est cette image des astronautes américains débarquant sur la Lune et mettant un drapeau. Ben voilà ce qu'on a fait pour le moment. Avouez qu'il reste encore du travail, hein ? Beaucoup de travail. J'ai beaucoup parlé des préhumains. Quelque part, qui sont nés un jour. Aussi de changement climatique. On a quitté les anthropoïdes, ils étaient dans la forêt tropicale humide, et nous, nous sommes un groupe qui s'est habitué à un environnement boisé clair. Donc, à quelque chose où est apparue une certaine saisonnalité. Eh bien, entre moins 3 et moins 2 millions d'années, vous avez une altération climatique marquée vers 2,5 millions d'années. C'est ce que mon ami et collègue, que vous avez entendu bien des fois, Yves Coppens, avec son humour habituel, a appelé, alors qu'il travaillait dans la vallée de l'Homo, O-M-O, il a appelé ça Homo Event. Mais homo, H, entre parenthèses, homo. À ce moment-là, au moment de l'altération climatique, eh bien, on voit, entre autres, dans la vallée de l'Homo, apparaître les premiers représentants du genre homo. Du genre homo. C'est-à-dire un hominidé qui va être adapté à des milieux plus ouverts, qui va pratiquer une bipédie exclusivement terrestre, et qui sûrement va prendre le goût des voyages. On va quitter l'Afrique. C'est à ce moment-là aussi qu'on voit apparaître les premiers artefacts, les premiers outils lithiques. On est à 2,5 millions, 2,6 millions. À l'heure actuelle, ces plus anciens représentants du genre Homo, on est venu vous en parler ici, David Lokipanidze vous en a parlé ici, ils sont connus en Géorgie à 1,8 million ans. Je vous ai déjà dit que sûrement on en trouverait des plus anciens, sûrement, et que on en trouvera ailleurs qu'en Géorgie. Je vous ai déjà dit, je crois, plusieurs fois, que je ne serais pas, et je ne considérerais pas que c'est une nouvelle inattendue de lire dans un quotidien le matin qu'on venait de trouver un hominidé à 2 millions d'années en France. Ça pourrait être, par exemple, dans le Massif central. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça, passons. Du comportement des grands singes, vous avez eu un spécialiste qui est venu vous en parler. Je pense que là aussi, un travail absolument extraordinaire est en train de se faire et on est en train de récupérer bon nombre de données qu'on n'avait pas du tout parce que, là encore, entre aller observer des grands singes dans leur milieu naturel ou aller au jardin des plantes observer des grands singes derrière les barreaux, forcément, on n'a pas le même comportement. Si on allait observer les sapiens à Fleury-Mérogis, on n'aurait pas les mêmes conclusions que si on venait les regarder ici à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Bon. Beaucoup de travaux sont en cours et là encore, on a beaucoup à apprendre dans les années qui viennent. Beaucoup. Et on aura là aussi sûrement beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Vous savez, on s'était mis sur un piédestal. C'était une espèce de podium olympique, mais vraiment, hein, la première marche, on avait vraiment une très grosse médaille d'or, quoi, hein. Les autres, ils étaient sur des marches. Et finalement, ça, l'écart diminue, hein, au fur et à mesure de nos connaissances, que les connaissances progressent, cet écart diminue. Hein, ce n'est pas aussi fort qu'on le pensait. Technologie, bon, géochimie isotopique, je vous en ai parlé, les micro-usures dentaires aussi. Cette bipédie, elle devient uniquement terrestre chez Homo avant. On est bipède, mais aussi arboricole. Il y a sûrement un problème entre ce gros orteil opposable. Nous, il ne l'est pas. Puis il y a les australopithèques. Entre les deux, on en reparlera l'année prochaine. Les Néandertaliens, on est plus près de chez nous. Je vous ai parlé des changements climatiques, retenez ça. Regardez, entre la disparition des dinosaures, 65 millions d'années, et maintenant, vous voyez bien qu'on va vers plus froid, mais vous voyez bien qu'on y va par un certain nombre d'accidents. On n'y va pas de manière linéaire. Ça, c'est important. On n'y va pas, on ne va pas de manière linéaire. Vous avez un certain nombre d'accidents climatiques. Avec des fossiles, on peut donc reconstruire des environnements. On l'a fait. On peut utiliser plein de méthodes, vous le savez. On peut montrer que certains types, certaines associations phoniques sont plus liées à des milieux humides ou à des milieux boisés ou à des milieux plus ouverts ou plus secs. On peut bien sûr, si on a des artistes, essayer d'imaginer tout ça et de reconstruire les paysages. Mais il faut les fossiles au départ. Cet aspect terrain, c'est important de vous le dire quand même. Voilà le terrain de jeu de mon équipe et de moi-même. Regardez, c'est la limite. Vous avez remarqué, hein, je n'ai pas dit terrain de football, hein, j'ai dit terrain de jeu, parce qu'on parle beaucoup de football en ce moment. Mais ce terrain de jeu, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. 2,5 millions de kilomètres carrés. La France, c'est un peu plus de 500 000 km2. Hein. Alors, vous imaginez que le terrain, c'est ça, 2,5 millions de km2, le désert, et on cherche des choses qui sont centimétriques. Hein. Une dent, c'est un centimètre. On cherche des dents de rongeur aussi, hein, qui font entre 1 et 2 mm. Hein. Donc, vous voyez, c'est facile, quoi. C'est moins difficile que d'aller faire la même chose quand vous allez sur un continent qui est recouvert d'une calotte glaciaire. Ça, je n'ai jamais fait, mais je vais essayer. Mais ça doit être intéressant aussi. Je pense vraiment, et je vais en terminer par ça avant de me soumettre à toutes vos questions, je pense vraiment que le paysage que vous regardez là, c'est un paysage qu'on appelle des paysages mosaïques et qui donne une assez bonne idée, je crois que c'est un bon analogue, de ce qu'était notre environnement quand nous, la famille humaine, nous sommes nés. Je vous remercie. On va faire un arrêt de jeu de 10 minutes et après, promis juré, je me mets là et j'essaie de répondre à vos questions. Merci.